Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche tous les samedis de 8h à 10h sur les ondes de Chise 94.3 avec Augustin Béchi. Aujourd'hui, 30 mars de l'an de grâce 2024, nous avons trois raisons immédiates de célébrer. D'abord, notre ami Ahmed a pu récupérer sa voix.
Et de retour, bonjour.
Et il est de retour avec vous avec le même plaisir,
oui,
et le même bonheur.
Tout à fait.
Maintenant, le 30 mars est une date anniversaire spéciale pour moi parce que ma défunte mère est née un 30 mars. Mon dernier enfant, François-Alexandre, est aussi né un 30 mars. C'est donc pour moi une sorte d'alpha et d'oméga. Alors pour ma mère et pour François-Alexandre et pour le retour de Ahmed, Augustin Béchi, ma follow-man, ça signifie « je berce l'enfant ».
Ma folle monnaie me yagale, ma folle monnaie me yagale, ma folle monnaie me yagale, ma folle monnaie me yagale. Anissia Waba bonne moana yonemi. Dis à tout le moment à Yiwa yikuyo, yiwa wogazi, yembe logo, yototon, yo parane, yikumangas, yengere lobo, yentetot. Mwane yanga wogo me vanyonu. Mama nga wuga nye van follow, ma follow nya follow follow ma bere nya si, ma dugu ne kononga nye ma banatwe. Ye amwane ye, edinge bele meneme ye. Itome ya somora bume ya tianam. Langa yenda boro na mbole miti Inyo nya uga mimiti Inya ya menebeti siye ya kwane Za yime yone ekiye Za nga yime ye Yizu beti ya yanga beti Yinoma beti, yemiyona beti, yisabrina beti, yongene beti, yimbazwa, yirozi nambaraga. Yibendie bama, yingwamba wama. Mafulu mone mayagala. Ma folle monnaie me yagala, ma folle monnaie me yagala.
Alors joyeux anniversaire à toi maman, de l'autre côté du voile, joyeux anniversaire François-Alexandre. Bonjour à toutes et à tous, aux uns et aux autres fidèles auditrices et auditeurs de Cheese 94.3 FM et de son de cloche. L'émission préférée de beaucoup ici et à travers le monde pour toutes ses formes d'expression, anodine, remarquable ou extraordinaire, locale ou globale, artistique, scientifique, sociale ou autre des êtres, des choses, des événements. Nous suggérons de ne pas rester enfermés dans des concepts, des paradigmes ou des idées toutes faites, mais se sentir en tout temps. Solidaire de tout ce qui concerne notre monde ou nos semblables, ici ou ailleurs, et agir en conséquence sans être limité ou disqualifié pour quelque raison que ce soit. Notre émission donne l'occasion à tous les points de vue d'exprimer leur originalité dans le respect de toutes, tous, chacune et chacun. Dans cette célébration du vivre ensemble, nous œuvrons à la concrétisation heureuse du donner et du recevoir au fil des émissions. Je m'appelle Augustin Betchi et vous exprime toute la joie, l'enthousiasme et le plaisir incroyable et agréablement renouvelé de passer les 2 heures qui vont suivre en votre estimable, enrichissante et stimulante compagnie avec la compagnie de notre ami Ahmed. Le thème du jour est l'expression de certains humains face aux incongruités de la vie. Commençons par une grande dame. Enfin, commençons d'abord par présenter quelques bonnes feuilles que nous allons partager avec vous aujourd'hui. Les bonnes feuilles sont de Roberto Saviano. Crie-le. Par ses investigations sur la mafia et le crime organisé, par ses prises de parole politiques, Roberto Saviano incarne le courage civique. En puisant dans sa propre expérience, il s'adresse aux générations futures, les incitant à s'exprimer, à s'engager, en dressant les portraits de 30 personnalités de la Grèce antique à nos jours. Nous n'allons pas explorer toutes les 30 personnalités. Nous explorerons quelques-unes. Il dénonce donc dans un livre incisif les manipulations, la propagande, la censure, le formatage par le marketing, les dérives du monde contemporain, et invite à réfléchir par soi-même, à ne pas tergiverser sur la défense de nos valeurs fondamentales. La néoplatonicienne Hypatie, Martin Luther King, Giordano Bruno, Émile Zola, Anna Akhmatova, Edward Snowden, Jamal Khashoggi. Des figures choisies comme exemples de courage et de dignité qui sont, loin de toute héroïsation, présentées avant tout comme des hommes et des femmes ordinaires qui n'ont jamais renoncé à leurs convictions. Autant de cris d'inspiration audacieuse pour tous ceux qui veulent s'engager pour un monde plus juste. Roberto Saviano est né à Naples en 1979. Il est notamment l'auteur du best-seller international Gomorra 2007, d'Extra Pur, Voyage dans l'économie de la cocaïne 2014, et des romans Piranhas et Baiser féroce 2018 et 2019, tous parus aux éditions Gallimard. Depuis 2006, il vit sous protection policière en raison des menaces que lui valent ses enquêtes. Petite question à notre consultant maison. Quand on vit sous protection policière, à cause de ses idées, est-ce qu'on ne peut pas changer ses idées?
Écoute, dans une de mes vies, comme je dis toujours, j'en ai vécu un petit peu sous protection.
Ok.
Et c'était durant quelques années de, que j'ai fait en opposition avant de venir ici.
Ok.
C'était pas que moi, c'était beaucoup de jeunes militants à l'époque qui étaient, après un célèbre assassinat, c'était un assassinat politique en Tunisie en 2013, après tous les gens qui étaient menacés, qui font de la politique ou du syndicalisme, étaient protégés par la police, en fait. C'est ça. En bref, c'est ça. Il ne faut pas changer ses idées, en fait. Je crois que lorsqu'on est menacé, on tient bon.
Est-ce que ce n'est pas trop dur pour soi-même
si.
Ou pour éventuellement la famille?
Oui, c'est très dur pour soi-même. Soi-même, on peut gérer ça, mais c'est très dur pour notre famille, pour notre entourage.
C'est ça.
C'est ça qui est dur. C'est très dur aussi pour les gens qui nous protègent de travailler avec des gens comme nous. Parce qu'on est jeunes, on sort.
Ok.
On n'est pas...
Donc on ne se restreint pas,
c'est
on
ça.
Continue de vivre.
Par exemple, je cite une amie, la défunte Lina Benmen, elle était nominée à prix Nobel 2011, elle était la figure emblématique de la révolution tunisienne, et elle était en protection rapprochée. C'est-à-dire qu'il y avait 3 gardes-corps de la brigade spéciale qui étaient toujours avec elle. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Et c'était une jeune fille qui avait 28 ans ou 30 ans. Imaginez un petit peu, elle a une vie aussi.
C'est ça.
Elle n'est pas costard-cravate, genre bureau, maison, non. Elle sort voir ses amis, elle fait des soirées, elle va souper, tout
mais,
ça. Même pour les gens qui la gardent, c'est difficile. Pas pour elle ou sa famille.
Même costard-cravate. Aussi peut avoir une.
Oui,
vie.
Je veux dire que ça, je veux dire que carré, genre, sans programme éclair, bureau, maison,
dodo,
c'est ça. Mais un jeune de même pas 30 ans, entre guillemets, il s'en fout pas mal. Mais vous voulez me tuer, ok, d'accord, je suis là, venez. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire?
Wow.
Mais c'est difficile. Parfois, la plupart du temps, on est tanné. Tu te sens. Comme si quelqu'un essaie de te suffoquer, tu sais. Genre.
C'est ça l'objet de la question.
Ouais.
Est-ce que, à force de suffoquer comme ça, de se sentir dans un corset, est-ce que on n'est pas tenté de laisser tomber ses idées?
Oui, mais on peut pas. On est pris au piège.
Ok.
C'est ça. On peut pas reculer.
Ok.
Parce qu'on arrive à certains, ce qu'on appelle le point de non-retour. Il y a pas de retour, mon cher. Parce qu'il y a des centaines, même plus de personnes qui te soutiennent comme figure, qui t'as des idées, ou comme un journaliste d'investigation, ou qui a fait un lanceur d'alerte comme Assange. Ouais. Et tout le monde s'accroche à l'idée ou à l'œuvre que tu as faite. C'est une œuvre, finalement. Tu ne peux pas baisser les mains et tu auras des gens qui seront déçus derrière. Notre passage dans la vie, ce n'est pas qu'un passage physique. On essaie de laisser notre empreinte pour les générations à venir aussi. On essaie de corriger autour de nous. Et si on est vraiment au milieu du parcours où on est presque d'arriver, on laisse tomber tout le travail qu'on a fait toute notre vie, toute notre carrière tombe à l'eau.
Écoutons Brassens et puis on reviendra pour que tu nous dises un peu ce que tu penses de ce qui s'est passé au Sénégal en Afrique.
Ok.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde méfie de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots. Ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi de taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jattes, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Merci à Brassens. Ahmed, nous, qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé en Afrique, au Sénégal? Parce que en Afrique de l'Ouest, nous connaissons tous la vague des coups d'État militaires. Puis, le Sénégal a décidé de faire sa révolution par les urnes.
Tout à fait.
Sauf que ceux qui ont gagné ces élections sortaient de prison.
Oui, c'est des opposants.
Ce sont des opposants qui ont été mis en prison par le pouvoir et qui a été obligé de les relâcher puisqu'il n'y avait pas d'éléments...
Disons ça. Il n'y a pas d'éléments de concret contre eux.
C'est ça.
C'est ça, mais bon. Ça sera une révolution par les urnes, c'est mieux qu'un coup d'État militaire. C'est toujours comme ça. Il faut anticiper. Et eux, ils étaient intelligents d'anticiper tout ce qui se passe en Afrique subsaharienne par rapport au coup d'État, sinon c'est la poudrière un petit peu par là-bas. Rappelons que le président élu là, du Sénégal a 44 ans.
Oui.
C'est un jeune.
Oui.
C'est très rare de voir un Africain, un président africain
oui.
élu à cet âge-là.
Exactement.
Sans vraiment, bah, entre guillemets, avoir des machines qui tournent à derrière pour le pousser.
Tout à fait.
Ce président-là, élu le 24 mars avec 54,28% des suffrages.
Exact.
Et qu'est-ce que faisait avant ça? Bah, à part qu'il est opposition, leader d'opposition, à part qu'il faisait de la politique, bien sûr, son travail était inspecteur des impôts.
Oui.
C'est-à-dire.
Et il a d'ailleurs été suspendu.
Oui.
Par le premier ministre qu'il a battu aux élections.
Tout à fait.
Bon, et ce président-là est un candidat de substitution.
Oui.
Parce que son leader de parti ne pouvait pas se présenter.
Oui. Il y avait des tensions par rapport aux élections sénégalaises avant qu'elles soient faites, oui. Parce qu'il voulait la reporter, il voulait l'annuler. Il y avait des tensions énormes dans le pays.
Exact.
Que finalement, je crois que le Sénégal a fait un grand soupir pour exercer la démocratie et ils ont élu un nouveau président qui incarne, je crois, la jeunesse sénégalaise. J'invite tout le monde à écouter la musique sénégalaise, c'est une des plus belles musiques en Afrique. Les chanteurs sénégalais, genre, ils sont, à part le footballeur, bien sûr, les chanteurs sénégalais, ils ont une renommée mondiale. Et tout le monde, la diaspora sénégalaise, elle est partout dans le monde, éparpillée un petit peu partout, et elle fait la richesse du Sénégal. La grande population, pour comprendre pourquoi un président qui a 44 ans, qui est devenu un président du Sénégal, le Sénégal, faut se rappeler, c'est une des puissances économiques de l'Afrique, et elle était sous colonialisme français, et son histoire est très riche par rapport à ça. On se souvient tout le monde des tirailleurs sénégalais qui étaient en armée, un contingent pour la libération de l'Europe durant la Deuxième Guerre mondiale. Mais je disais, ces jeunes-là, c'est la plus grande masse démographique au Sénégal, et c'est eux, je crois, qui sont bougés et sont partis dans les urnes pour faire voter le nouveau président du Sénégal, qui était, que je disais, inspecteur des impôts, et il s'appelle Ousmane Sonko.
Non, Ousmane Sonko, c'est le président du parti.
Oui, oui.
Bon, l'autre s'appelle
Bassirou Diamaye Faye.
C'est ça.
Et dans les articles en Afrique, en fait, c'est comme Jeune Afrique, c'est le célèbre magazine Jeune Afrique,
oui.
Ils disent que candidat éclair, président surprise. Parce que tout le monde était pris, comme d'habitude, par surprise,
mais
ça ne veut pas.
Mais oui, parce que la campagne qu'il a pu faire n'a pas duré.
Oui.
Ils étaient incarcérés, à peine sortis de prison. C'est quelque chose. Alors, écoutons Youssou N'Dour, puisque tu as parlé de musique sénégalaise.
Solo kill di côté qui est De découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
Sinatra, Veranda, Glasper, Davis, Matheny, Mays, Knopfler, Steffi Schock, Herbie Hancock, Slacky, Sirtaki, Charles Hives, Sudden Archives, Jerry Allen, Grant Eugène, Cloney Ellington, Wagner, tous ces artistes et styles et plus encore. Monsieur Papal pour la cassette, un mardi sur deux, 22h à 23h sur Chiz 94.3 FM.
cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.cheese.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Connection, les mercredis de 19h30 à 21h30 sur les ondes de Cheese 94.3.
Maintenant, nous poursuivons notre émission avec des personnages choisis par Roberto Saviano. Commençons par Hypatie. Hypatie est une femme de lettres et de sciences. Elle est à la tête de l'école néoplatonicienne d'Alexandrie, au sein de laquelle elle enseignait la philosophie et l'astronomie. Hypatie est née entre 355 et 370, selon les sources, et assassinée par les chrétiens fanatiques en 415. Elle est une philosophe néoplatonicienne, astronome et mathématicienne grecque d'Alexandrie. Disons que à cette période-là, la connaissance pour une femme était lourdement sanctionnée.
À cette époque, oui. Auparavant, non. C'est comme si c'est sinusoïdal l'histoire.
C'est comme si l'histoire bégaye ou bien a des hauts et des bas.
C'est ça. Parce que là, il y en a plusieurs femmes dans l'histoire qui étaient tuées parce que on l'accusait d'être sorcière, on l'accusait de blasphème aux mécréantes par rapport, surtout en philosophie et des guérisons, ce qu'on appelle des guérisseurs. Okay. Ça.
On dit que c'est une femme de lettres et de sciences, qu'elle est à la tête de l'école néoplatonicienne d'Alexandrie, au sein de laquelle elle enseigne la philosophie et l'astronomie, mais surtout que c'est la première mathématicienne dont la vie est bien documentée. Maintenant, visitons un peu ce que notre ami Saviano en dit. Il commence par une question. Crois-tu que seuls les autres sont fanatiques? Ça, c'est une question que nous allons, sur laquelle nous allons revenir avec notre consultant maison. Hypatie et les talibans. Ce ne sont que des mots. Des mots? Et quand tu dis « je t'aime », de quoi te sers-tu de mots? Quand tu fais du mal, des mots. Quand tu essaies de protéger, des mots. De te protéger, des mots. Quand tu demandes du réconfort, des mots. Quand tu réconfortes, des mots. Même quand tu invoques Dieu, ne te sers-tu pas de mots? Ça n'a jamais été seulement des mots, sinon on ne comprendrait pas pourquoi ils sont depuis toujours effacé, étouffé, caché, déformé, déchiré, interdit, brûlé, persécuté, emprisonné. Ça n'a jamais été seulement des mots, sinon on ne comprendrait pas pourquoi ils sont depuis toujours redoutés à ce point. Les mots survivent à ceux qui les ont prononcés, ils survivent au fil des siècles à ceux qui les ont étranglés et suffoqués. Ils font peur, les mots. Ils traversent des siècles. Ils transpercent les murs, s'installent dans les cœurs et habitent les consciences. Ils ne sont pas marginalisés par la discrimination, ne sont pas serrés par la corde. ils sont immunisés contre le feu et ne sont pas brisés si on les écartèle. Ils ne sont pas touchés par les balles ni éventrés par la dynamite. Faut-il les prononcer ou non, ces mots? Telle est la question, car chaque mot a un prix très élevé, un prix fait de contrariété, de rancœur, de dérision, de calomnie, de jalousie, de solitude, de menace, de torture, d'emprisonnement, de mort. Qu'est-ce qui nous pousse à parler encore, à croire encore qu'avec la parole, l'homme a abandonné sa nature sauvage, la caverne qui le liait à ses besoins primaires, la chasse, la nourriture, le feu, la survie, l'idole à laquelle il attribuait tous les pouvoirs. Avec la parole, l'homme a créé des routes, des connexions, des ponts. Avec la parole, il s'est lié aux autres. Il s'est fait comprendre et a permis aux autres de se faire comprendre. Avec la parole, l'homme a formé un seul bloc pour lutter, s'améliorer et conquérir de nouveaux espaces de pensée, de droit et de vie. Au moyen de la parole, l'homme est sorti de la préhistoire et est entré dans l'histoire, celle des sociétés complexes et sédentaires, des civilisations de l'écriture, du livre et de la lecture. Avec la parole, l'homme a dépassé les graffitis préhistoriques et choisi la réflexion, l'analyse, le témoignage et le droit. La parole est pensée et il n'y a pas de pensée hors de la parole. Plus nous sommes capables de prononcer des mots, plus notre pensée s'étend et se renforce. Beaucoup de mots, c'est beaucoup de pensées. Peu de mots, et nous retournons à la caverne, aux superstitions, à la peur de l'ombre, aux sentiments d'urgence incontrôlés que nous ne sommes pas à mesure d'apaiser. Avec le temps, je me suis rendu compte que chacun envisage l'histoire à sa façon. Ce que je veux dire, c'est que plus on s'éloigne des années de formation, plus on cesse de considérer l'histoire comme une suite de dates clés, de personnages célèbres et de guerres semblables. En d'autres termes, on commence tous à reconstituer l'histoire en suivant notre propre fil rouge. Alors revenons à notre consultant en maison pour lui reposer la question. Crois-tu que seuls les autres sont fanatiques?
Non, même nous, on est fanatiques. Mais le fanatisme diffère. On est fanatique dans l'amour de notre patrie, fanatique dans l'amour de notre famille, de nos enfants. Mais il y en a d'autres qui sont fanatiques d'autres choses très mauvaises. Mais nous, on est fanatiques de l'amour, des couleurs, de la vie, de la musique, du théâtre, de la culture, de toutes les bonnes choses qui font avancer l'humanité, de la paix.
Bon, tu as dit quelque chose qui m'intéresse et m'interpelle en même temps. Quand nous sommes amoureux de la musique, de la vie, pour d'autres communautés, c'est une déclaration de guerre.
Oui, c'est un blasphème.
Ça peut amener à la mort.
Oui, t'écoutes la musique, toi? Voyons donc. Tu vas au théâtre? C'est ça, ça commence tout comme ça.
En Iran, juste parce qu'une jeune fille, n'avait pas mis son couvre-chef, suivant les canons des intégristes, elle a été arrêtée et malheureusement exécutée.
Oui.
Ce qui crée encore des problèmes jusqu'à aujourd'hui dans ce grand pays-là.
C'est ça, c'est une grande boule de feu qui ne s'arrête pas de tourner depuis les années 70 où il y avait la révolution de l'Iran, là. Mais ça ne s'arrête jamais.
Et pourtant, ce pays est un pays de savants.
Depuis son histoire, l'Empire perse, jusqu'à nos jours, c'est un pays de grandes femmes et grands hommes, de savants, de philosophes, de musiciens. La musique perse, c'est une des plus belles musiques au monde. La philosophie, les mathématiciens, les philosophes perses, ils ont rajouter leur savoir-faire, par exemple, dans la culture à l'époque abbasside, au XIVe siècle, à l'époque fatimide aussi, au XIIIe siècle. C'est vraiment, ils ont un savoir-faire énorme et ils ont exporté tout ce savoir-faire à travers le monde.
Comme ça, as-tu une explication pour la montée de la violence intégriste en Iran?
Pas qu'en Iran, partout. C'est... Écoute,
bon.
La violence, c'est l'arme du plus faible. Lorsqu'on n'a pas les arguments... Oui. Le plus facile, c'est faire quoi? C'est cogner avec des poings. Ou utiliser la violence. C'est toujours comme ça. Lorsqu'on n'a pas comment argumenter une jeune fille qui dit « Je suis libre de ce que je fais. C'est mon droit. » Et là, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de la baïonner. C'est toujours comme ça dans l'histoire.
Continuons avec l'article sur Hypatie. Chacun observe le passé de son propre point de vue, précis, partiel et intime. Ça m'est arrivé à moi aussi sans que je m'en aperçoive. Au fil du temps, les grandes batailles, celles que j'aimais avant, avec l'infanterie et la cavalerie alignées dans les deux camps, ont disparu de mon imagination. Puis l'histoire des grandes explorations, des routes commerciales, des découvertes scientifiques qui, dans mon adolescence, m'attiraient tel un aimant vers l'encyclopédie, s'est effacée à son tour. Enfin, l'histoire 100% économique de mes 20 ans a subi le même sort. À présent, pour que les différentes zones de mon cerveau se connectent, il faut me parler de l'histoire de la parole. Aujourd'hui, pour moi, l'histoire est celle des personnes qui se sont battues à l'aide des mots, qui ont construit et tenté de changer les choses à l'aide des mots. Ça fonctionne aussi dans l'autre sens. C'est l'histoire de ceux qui se sont opposés à ces mots, qui les ont persécutés et étouffés. C'est donc l'histoire des bûchers, des nœuds coulants, des billots, des menottes, des camps de rééducation, des hôpitaux psychiatriques, de l'huile de ricin. L'histoire des mots confisqués, torturés, vilipendés, humiliés, mis à tremper dans des seaux remplis de merde afin que plus personne ne s'en approche. Des mots sanctionnés, menacés, poursuivis, baisés et abaissés, piratés, truqués. Des mots qu'on fait exploser avec une quantité absurde, disproportionnée de dynamite, alors que la moitié de la moitié aurait suffi. Plus je les cherche, plus je les note, plus je les signale, plus je les publie, plus je les tweete, plus j'encourage à les suivre, et plus je suis convaincu que le phénomène s'aggrave au lieu de s'estomper. Et pendant ce temps, je ne vois rien d'autre. Des étendues, des tas, des dépôts, des entrepôts, des forêts, des montagnes de mots, mots de liberté, mots de changement, mots de réconfort, mots de convenance, mots de solidarité, mots de remerciement, mots de renoncement, mots de repentir, mots de séparation, mots d'intimidation, mots de menace, mots d'excommunication, partout et toujours des mots, rien que des mots. Sais-tu par quoi débute mon histoire de la parole? Elle saute par-dessus la préhistoire. Je ne suis pas archéologue. La préhistoire ne me dit rien. Pour être honnête, les idéogrammes balbutiants des Sumériens et les hiéroglyphes égyptiens ne me disent rien non plus. Quand j'étais jeune, j'aurais cru que seul un idiot pouvait voir les choses de cette manière. Mais à présent, je n'y peux rien. Si on me demande d'évoquer l'histoire depuis ses débuts, je pars de l'agora athénienne. C'est seulement quand j'entends le bruit de la foule que je sens la pression physique des corps sur la place, l'odeur de sueur des gens qui se disputent, s'affrontent et cherchent des solutions, que mon sang se met à circuler avec vigueur. Dans l'époque romaine, sais-tu ce que je vois? Je vois les tribuns de la plèbe se lever pour défier le Sénat. Hausser le ton parce que c'est leur droit. Utiliser les mots pour donner une voix à ceux qui n'en ont pas eu jusqu'à présent. À la fin de l'Antiquité, il n'y a qu'une femme. J'aime cette femme, et pas au sens figuré. Une femme généreuse de ses mots. Une femme qui a cru au pouvoir salvateur de la connaissance et qui cherchait par tous les moyens à la partager. À la rendre contagieuse. Une femme qui, entre autres choses, prouvait par son existence que, lorsqu'on leur permet de faire des études, les femmes sont comme les hommes. Est-ce une banalité? Oui, mais crois-moi, il y a encore des gens qui en doutent. Je veux parler d'Hypatie, qui a créé seule sa propre école de philosophie à Alexandrie, à une époque où c'était exceptionnel pour une femme. Mais Hypatie était si déterminée que les hommes qui l'entouraient surmontèrent leurs préjugés et devinrent ses disciples. Hypatie était une philosophe au sens le plus large du terme. Elle aimait la connaissance en général et les mathématiques comme l'astronomie étaient florissantes dans son école. Ses disciples étaient prêts à tout pour elle, même à mourir, comme chaque élève pour son maître, si c'était un vrai maître. Sais-tu ce que veut dire taliban ? Taliban signifie étudiant, et par extension, étudiant du Coran, en référence au groupe qui a imposé un régime fondamentaliste en Afghanistan entre 1996 et 2001. Donc, toujours par extension, cela signifie étudiant fondamentaliste et aussi censeur et ennemi juré de la parole. Mais comment se peut-il qu'un étudiant censure la parole? Les talibans admettent, ou plus précisément souhaitent, l'usage de la violence afin de punir ceux qui ne respectent pas leurs principes, tirés avec un évident parti pris du Coran. Qu'est-ce que cela a à voir avec Hypatie? Eh bien, ce sont des talibans qui l'ont tué. Il est vrai qu'à cette époque, l'islam n'était pas encore né. Mais le fanatisme religieux, si. Et il se manifestait déjà de manière notable. Ce furent des étudiants fanatiques de la Bible, des chrétiens néophytes, qui déclarèrent la guerre aux mots libres et courageux d'Hypatie. Et dans leur cas aussi, la violence qu'ils étaient prêts à employer pour arrêter sa parole n'avait aucune limite. Ils kidnappèrent Hypatie. Ils l'amenèrent dans une église et, après l'avoir déshabillée, ils la réduisirent en pièces, puis ils la brûlèrent. De tous ces gestes, celui qui me fait le plus mal est qu'ils la déshabillèrent. Tu me diras vraiment qu'il l'ait déshabillée est ce qui te fait le plus mal? Ils la réduisirent en pièces, ils la brûlèrent, et ce qui te fait vraiment le plus mal, c'est qu'il lui ait d'abord retiré ses habits? Oui, c'est exact, tu as bien compris. Je sais que cela peut sembler paradoxal. Je sais que des trois, cela paraît le geste le moins violent, mais sois patient. Je t'expliquerai tout quand nous parlerons de Giordano Bruno. 1185 ans plus tard, on a fait la même chose avec lui. Dans tous les domaines, à toutes les époques, j'ai distingué les personnes qui défendent et protègent la parole de celles qui la violent, qui la compromettent. Même si ce sont des idées contraires aux miennes, même si c'est dans des contextes violents et contradictoires. Ceux qui défendent la parole appartiennent, d'après moi, à cette partie précieuse et souvent invisible du genre humain qui défend l'humanité. En guise de conclusion de cette bonne feuille, Roberto Saviano écrit « Crie-le quand on te force à la banalité de la simplification. » Là, nous revenons encore à notre consultant maison, qui a certainement des remarques à faire. Ici, on s'est rendu compte que l'idée même du taliban est avant l'islam.
Oui, mais... Oui.
Donc la violence religieuse ne peut pas se cantonner juste aux islamistes.
Tout à fait.
On peut la retrouver ailleurs.
De partout. mais c'est juste que maintenant, tous les axes sont focalisés sur ça. C'est pour ça qu'on nous voit ça, nous voit de partout. Mais jusqu'à maintenant, le fanatisme existe dans toutes les religions, toutes les pensées.
Écoutons Enrico Macias, deux ailes, trois plumes.
Deux ailes et trois plumes dans son blanc costume, on dirait une mariée. Voici la colombe, la jolie colombe, avec son brin d'olivier.
Enfant de ce monde, oubliez vos fondes, vous risquez de me blesser. Je suis la colombe, la jolie colombe, je voudrais bien me poser.
On apprend bien trop tôt à faire la guerre à tous les oiseaux, à salir la terre, le ciel et l'eau, à détruire ce qui est beau. On s'habitue ainsi à penser que tout nous est permis et à ne plus respecter la vie. Pourtant qu'elle est jolie.
Deux ailes et trois plumes dans mon blanc costume, on dirait une mariée. Je suis la colombe.
Laissez-lui sa liberté. Voici la colombe, la jolie colombe, qui a peur de se poser. On l'a tellement chassée dans tous les pays du monde entier, tant de fois, tant de milliers d'années, qu'elle ne sait plus où aller. Si l'on ouvrait son cœur, l'on savait donner le meilleur, il ne serait pas loin le bonheur. Elle n'aurait plus peur de
ses trois plumes dans son blanc costume. On dirait une mariée. Voici la colombe, la jolie colombe, avec son brin d'olivier. Vous tous dans ce monde qui gronde, avec moi si vous voulez. La jolie colombe, dans le soir qui tombe, nous allons l'apprivoiser. Deux ailes et trois plumes dans son blanc costume, on dirait une mariée. Voici la colombe, la jolie colombe, avec son brin d'olivier. Enfant de ce monde, vous risquez de la blesser. Voici la colombe, la jolie colombe, qui voudrait bien se poser. Deux ailes et trois plumes dans son blanc costume, on dirait une mariée. Voici la colombe, la jolie colombe, avec son brin de.
Alors, Enrico Macias nous parlait de la colombe et nous allons revenir à notre consultant. Qu'est-ce que tu penses des colombes dans un monde de faucons?
Elles seront chassées. Ben, les colombes dans un monde de faucons, écoute, monsieur. C'est difficile de survivre dans un monde de faucons. Pour ces colombes-là, c'est très très difficile d'y vivre. Au sens premier, les colombes soient des qui essayent de voler, il y a
les prédateurs.
Prédateurs, mais aussi dans la vie, nous autres, si on aime la paix, on est des colombes aussi. Parce que le signe de la paix, c'est quoi? C'est ces petites colombes blanches, n'est-ce pas?
Oui.
Et ben, c'est difficile de faire un contre-courant. avec tout ce qui se passe dans le monde, tout le monde essaie de mettre la guerre au-dessus des tables. Regardons ce qui se passe sur le vieux continent, sur en Europe de l'Est ou occidentale, tout le monde, il n'y a personne qui parle de paix.
Non. C'est curieux. D'ailleurs, on l'a évoqué un peu il y a peut-être une ou deux émissions, quelques émissions. Oui. On déplorait le fait qu'il n'y a pas souvent de ministère de la paix et que nous avions très souvent le ministère de la guerre.
Tout le temps, on a des ministères de la guerre. Soit de la défense, soit de la guerre. Mais dans tous les États. Mais il n'y a pas un ministère
de la paix.
De la paix. On dit toujours que c'est plutôt ça s'approche à la culture. Mais non. Je crois que la vision nouvelle du monde doit avoir le ministère de la paix. On éduque aux petits, aux grands, ce qui est la paix. Comment on peut faire la paix ?
Mais comment donc pouvons-nous, évidemment, avoir la paix si on ne l'a jamais préparée ?
Excuse-nous, on n'a pas le manuel d'utilisation. On dit toujours comme ça.
Nous pouvons donc commencer à élaborer le manuel d'utilisation.
Tout à fait. C'est comme pour gouverner, comme je dis toujours, il faut planter la germe de la peur chez les autres et dire qu'on est le sauveteur. C'est la même chose. Il faut planter une germe de paix. Il faut expliquer que nous autres, on n'est pas une menace. Que tout le monde a le droit de vivre sur cette planète sur le même pied d'égalité. Quelles que soient les origines, quelle que soit la couleur, quelle que soit la religion, quelle que soit la langue ou la race. C'est quoi la différence entre nous autres ? Rien. Le monde, avec tout ce qui est globalisation maintenant, c'est un petit village médiatique. Avec tous les réseaux sociaux et Internet, on peut voir ce qui se passe dans le monde avec juste un petit sel. On est identique à nous-mêmes. On est semblable. On est passé par un scanner là, pour faire des copies. On est 8 milliards de copies de nous-mêmes, avec quelques différences.
Des différences minimes.
C'est ça. Et là, dans toutes les guerres, on essaie de mettre ces différences minimes.
En exergue.
Et tout à fait. On dit, regardez, ça, c'est le danger qui vient d'ailleurs. On doit le combattre. On les dit, savez-vous quoi ? On ne va pas le combattre ici, on va le combattre chez eux, là. Et là, c'est, tu m'attaques, je t'attaque, et ça ne s'arrête pas. C'est un cercle vicieux, comme s'il y a un petit chien qui essaie d'attraper sa queue. Et depuis là-haut, tout à l'heure, il parlait l'écrivain de la préhistoire. Mm-hmm. Il dit que peut-être il ne comprenait pas trop de choses, mais dans la préhistoire, dans les dessins rupestres, oublions la Mésopotamie, oublions les pharaons et leurs hiéroglyphes, je vous invite tout le monde à mettre soit les grottes de Lascaux en France, soit les grottes de Jbal Ouzlet. Oui, mon cher.
Avec ta permission.
Oui, bien sûr.
Publicité.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Allô Patrick, comment ça va?
Ça va bien toi?
Ah, pas très bien. On dirait que je sais pas quoi écouter comme musique.
Ah ouais, je donne ça pour toi. Écoute Le Monde de Ricassono, c'est vraiment bon. Il y a plein de musique qui va te remonter le moral.
Ah oui? Qu'est-ce que c'est?
Il y a plein de nouveautés de tous les styles musicaux, comme la musique anglophone, francophone, autochtone. Il y a même la musique punk et metal.
Ah ouais?
Et en plus, c'est vraiment cool. Il y a la musique no country, rap, reggaeton, EDM club, sans oublier les découvertes internationales, ainsi que la réaction forte de la semaine.
Les fans de musique, réveillez-vous! À quel endroit on peut retrouver ça?
Tous les dimanches, entre 19h à 20h30, à Chiz 94.3.
C'est un rendez-vous!
On Mouquet au site.
J'entends quelque chose.
C'est une nouvelle émission dédiée aux langues menacées ou en dormance et aux cultures autochtones en résurgence. Yari Huaronka. Saviez-vous que 6 à 7 000 langues sont actuellement menacées de tomber en dormance dans le monde? Koshimrud Egin. La revitalisation linguistique et culturelle par le dépaysement sonore, l'altérité auditive, des mots et des merveilles longtemps oubliés ou ignorés C'est ce qui vous attend à Unmukelsit. Unmukelsit, tous les dimanches à midi sur Cheese 94.3.
Étudiants et étudiantes de deuxième et troisième cycle de l'Université Laval, voulez-vous vous impliquer à l'Allier? Sachez que c'est le moment opportun. Envoyez rapidement un message à l'adresse courriel suivante communication avec s@commercialallier.ulaval.ca. Venez vite! L'Allier, votre allié pour toujours.
Alors, tout à l'heure, tu étais en train de nous parler de paix.
Tout à fait. Et je disais, par rapport à ça, que c'est pas que l'histoire moderne. Je disais, j'ai invité, oublions tout ce qui est Mésopotamie, enfin, hiéroglyphes et tout ça, mais voyons les grottes de Lascaux ou grottes de Jbel Ouslet en Tunisie. Les dessins rupestres nous montrent, avec des dessins, que même en 20 000 ans, 25 000 ans avant Jésus-Christ, il y avait des guerres aussi. Mais des guerres, c'est pas les guerres modernes qu'on voit, genre centaines de milliers contre centaines de milliers, c'est une personne contre une autre, sur un pâturage ou sur du bétail. C'est-à-dire que le vice qui est en nous, humain, c'est ça. On a peur toujours de l'autre. Et c'est pour ça que l'autre, c'est un frère ou une sœur, hein, pas forcément...
C'est ça.
Et malheureusement... On vit dans une époque, heureusement ou malheureusement, mais ça dépend de l'œil ou dans l'angle de l'attaque, ou l'angle qu'on voit les choses. Ces dernières 20 ans, ou même plus, on a vu de tout dans ce monde-là. On a vu, et encore, on voit encore. On croyait qu'il n'y aura plus de guerre en Europe. Il y a des guerres en Europe.
Est-ce que le besoin de paix est une utopie? Est-ce que c'est un rêve, une rêverie mal placée? Ou bien la guerre est inhérente à la nature de l'être humain?
Je crois qu'elle est là, dans la nature de l'être humain, mais c'est très difficile de faire de la paix, parce qu'on n'est pas habitué comme être humain à discuter. On arrive à la limite, et chaque personne entre nous veut grignoter un petit peu dans le pouvoir de l'autre, ou dans la parole de l'autre, ou dans la liberté de l'autre aussi. Mm-hmm. Et l'autre, ou il se révolte, et lorsqu'on a le pouvoir, on dit directement, pourquoi vous vous révoltez là? Qu'est-ce qu'il y a? C'est la même chose. C'est le même principe.
Ok.
Et lorsqu'on arrive à un point ou à un cul-sac, il n'y a pas de solution. Soit cette personne se passe, soit l'autre. Il n'y a pas de solution après.
Partageons ce conte des sages de l'Inde. Miroir. Un homme très imbu de lui-même fit recouvrir de miroirs tous les murs et le plafond de sa plus belle chambre. Souvent, il s'enfermait là, contemplait son image, s'admirait en détail, dessus, dessous, devant, derrière. Il s'en trouvait tout ragaillardi, prêt à affronter le monde. Un matin, il quitta la pièce sans refermer la porte. Son chien y pénétra. Voyant d'autres chiens, il les renifla. Comme il le reniflait, il grogna. Comme il grognait, il les menaça. Comme il menaçait, il aboya et se rua sur eux. Ce fut un combat terrible. Les batailles contre soi-même sont les plus féroces qui soient. Le chien mourut exténué. Un ascète passa par là, tandis que le maître du chien désolé faisait murer la porte de la pièce au miroir. Ce lieu peut beaucoup vous apprendre. Laissez-le ouvert. Que voulez-vous dire? Le monde est aussi neutre que vos miroirs. Selon que nous sommes admiratifs ou anxieux, il nous renvoie ce que nous lui donnons. Soyez heureux, le monde l'est. Soyez inquiet, il l'est aussi. Nous y combattons sans cesse nos reflets et nous mourons dans l'affrontement. Que ce miroir nous, vous aide à comprendre ceci. Dans chaque être et chaque instant, nous ne voyons ni les gens, ni le monde, mais notre seule image. Voyez cela et toute peur, tout refus, tout combat vous abandonneront. Qu'est-ce que tu penses des miroirs?
Oui, écoute, tu lisais ça et moi je checkais un article par rapport à l'Inde. Je disais, comment on a pu changer de ça, ce que tu lisais,
oui,
à ce qui se passe en politique en Inde, tout ce qui est discrimination. Parce qu'il y a une nouvelle loi sur la naturalisation en Inde qui exclut des gens qui portent une religion.
Ok.
Et l'acheminement des sages de l'Inde et vice ce qui se passe aujourd'hui,
oui,
il y a un très grand écart. C'est ça le monde actuel, mon cher. C'est beau tout ça, oui. On est d'accord, oui. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Qu'est-ce qui exerce aujourd'hui? C'est quoi la politique aujourd'hui? Eh bien, c'est la discrimination, tout simplement. On dit non, c'est pas, vous voyez. Il y a toujours non, vous voyez. Il y a toujours ça.
Mais la politique, en fait, se ramène à une discrimination.
Oui. Il y a discrimination de discrimination. Il y a des discriminations qui sont cachées, on ne peut pas les voir. Mais celle-là, c'est d'exclure vraiment des gens qui portent une religion de la citoyenneté indienne.
Mm-hmm.
Et on parlait tout à l'heure que tous les gens, quelle que soit leur origine, leur religion, leur race, leur couleur, leur tendance, sont frères et sœurs sur le même pied d'égalité.
Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi constater que les humains vont faire du bien? Mais on ne retient que les seules fois où ils ont fauté, où ils ont fait du mal, où ils ont glissé, quelque chose comme ça.
Le train qui arrive à l'heure,
oui,
est-il une info?
Ce n'est pas une info.
Le train qui arrive en retard?
Là, c'est une info.
Voilà. On a 365 jours, le 364 jours, le train arrive à l'heure. Un jour, il arrive en retard de une minute, c'est ça l'info. Et là, ils me disent, non, toute l'année, il vient à l'heure. Non, c'est pas ça l'info qui m'intéresse. Je dois corriger, ou nous devons corriger, la foi au début de retard. C'est la même chose.
Écoutons Nana Mouskouri et Johan Baez, Plaisir d'amour.
Thank you.
désir d'amour ne dure qu'un moment.
Oui.
Chagrin d'amour dure toute la vie. Est-ce que ça a déjà été chanté? Ça a été chanté il y a un bon moment déjà. Est-ce que nous retenons la leçon?
Crois-tu qu'on retient la leçon? Non. On cherche toujours ce petit bonheur d'amour, mais on oublie toujours qu'on a quelque chose que, dans notre histoire qui nous fait un petit peu mal, les chagrins d'amour. Mais à chaque fois, c'est comme pour le nirvana, tu sais. À chaque fois, on cherche cette hormone qui est en nous, qui nous donne le bonheur en amour. On la cherche. Malgré tout, on est toujours là. On a parlé du courage, on a parlé de la bravoure. Autrefois, c'est la même chose. Il faudra s'élever le matin et chercher l'amour aussi.
Tout à l'heure, on parlait de l'Afrique subsaharienne. Et une bonne feuille de notre ami Saviano ici fait un clin d'œil à la situation en Afrique de l'Ouest. Alors, on commence par une question. Sais-tu qu'un homme politique qui porte l'uniforme le fait pour te faire peur? Bon, est-ce à dire que la solution sénégalaise est meilleure que celle des gouvernements en kaki?
C'est très compliqué comme question. Parce que les pays dont on parle, ou le gouvernement, est-ce qu'ils ont le manuel d'utilisation de la démocratie, mon cher? Est-ce qu'ils ont vraiment une tradition de démocratie? Quand on la connaît là, avec les urnes, ils étaient exploités.
Le philosophe Descartes disait déjà que l'ennui naquit un jour, et j'aime beaucoup cette pensée, l'ennui naquit un jour de l'uniformité.
Oui.
Parce que De Gaulle était un homme en uniforme.
Oui.
Et pourtant, les Français le considèrent comme un grand démocrate.
Certains Français. Mais De Gaulle, c'est le général De Gaulle. Bon. C'est le titre.
Il y avait un titre là. Général.
Bon. Oui.
Maintenant, à côté du général De Gaulle, parce qu'on disait très souvent général De Gaulle, il y a eu quelqu'un aux États-Unis, presque au même moment, je crois, qui s'appelait Eisenhower, qui était général lui aussi.
Oui.
Mais très souvent, on ne mettait pas ce titre de général Eisenhower.
C'est complètement différent entre les deux. La carrure des hommes, c'est très différent. L'histoire des pays, elle est très différente aussi. C'est De Gaulle, l'homme de politique, l'homme militaire général De Gaulle, avec sa grande taille imposante, avec son kaki là, il a voulu redonner de la valeur à l'armée française après la libération de la France. On n'oublie pas ça. Le général De Gaulle est parti après l'armistice. Il a voulu redorer le blason de l'armée française. On n'oublie pas ça. Mais après, il a gouverné comme un civil et comme un politicien. Finalement, dans l'histoire, on sait ce qui s'est passé après. Et on n'oublie pas, durant ces temps-là, même si le gouverné était chef d'État, il y avait l'enjeu de l'Afrique, il y avait l'enjeu de la révolution algérienne. C'est-à-dire qu'il gouvernait comme un chef militaire, pas que comme chef d'État.
Est-ce que on ne peut pas considérer que De Gaulle a été une sorte de chauve-souris? C'est-à-dire que quand il s'adressait aux militaires, il avait un langage de civil.
Oui.
Et quand il s'adressait aux civils, il avait un langage militaire.
Il jouait sur les deux. Une fois, dans un discours de De Gaulle, il disait « Comment je peux gouverner ? Comment je peux ? Il peut que les Français soient d'accord sur un seul homme si eux-mêmes ils sont pas d'accord sur une seule sorte de fromage. Comment je peux gouverner un pays où il y a 300 sortes de fromage ?» Et C'est un peu ça. Il jouait sur les deux aspects. Il a deux casquettes, la casquette militaire et la casquette d'un très bon négociateur et de très bons politiciens.
Partageons cette, cette bonne feuille de notre ami Saviano, l'éternel sentinelle. Alexandre Solzhenitsyn a dit « Le prix de la lâcheté est toujours le mal ». Si tu veux savoir jusqu'où ceux qui nous gouvernent sont prêts à aller pour malmener le droit et rompre le fragile équilibre de la démocratie, tu dois mesurer le taux de liturgie en suspension dans l'air. Par exemple, la façon de s'habiller lors des apparitions publiques fait partie de la liturgie que le pouvoir vaporise dans l'air. Ceux qui veulent vraiment se mettre au service de leur rôle public ne le personnalise jamais. Il n'arbore aucune tenue inhabituelle et porte les mêmes vêtements qu'avant. L'homme politique qui veut au contraire profiter de son pouvoir pour l'accroître choisit soigneusement les habits dans lesquels il se présentera aux foules. Mais attention, quelqu'un qui laisse sa façon de se vêtir s'exprimer pour lui a de toute évidence choisi de ne pas faire confiance aux mots, au débat démocratique, à des idées. Et s'il le faisait, son message serait pris pour ce qu'il est, du vide. À ses yeux, il est donc préférable de communiquer à travers des gestes, des symboles, des index pointés vers la caméra, des clins d'œil, des menaces, des insultes et bien sûr, des tenues de scène. Cela devrait nous inquiéter car chaque fois qu'un tel phénomène s'est produit au cours de l'histoire, rien de bon n'en est sorti, surtout quand la dite tenue de scène était un uniforme. Quiconque porte un uniforme en dehors de ses heures de travail et sans lien avec sa fonction réelle veut te suggérer quelque chose. Il évolue à un niveau bien différent des autres. Il veut te dire qu'il est l'éternel gendarme, l'éternelle sentinelle qui veille sur ses braves sujets. Dors, je m'occupe de tes nuits, mais en échange de ce sommeil protégé, tu dois m'abandonner tes journées. Et qui veillera sur les mauvais sujets, sur ceux qui sont en désaccord, ceux qui irritent les gouvernants, ceux qui critiquent? Peuvent-ils eux aussi dormir sur leurs deux oreilles? Ou cet uniforme sert-il à leur rappeler que s'ils sont en désaccord, s'ils s'opposent, ils auront des ennuis? On te dira, qu'y a-t-il de mal? Ils portent simplement un uniforme. Tu es contre la police? D'ailleurs, tous les chefs d'État l'ont déjà fait. Oui, mais ils l'ont fait dans des circonstances exceptionnelles, pendant quelques heures, un jour ou pour une occasion particulière. Un président endosse l'uniforme et se change en policier. Mais si un dirigeant ou un ministre se change en policier ou en soldat, c'est une autre affaire. On te dira, c'est un hommage aux forces de l'ordre. Qu'y a-t-il de mal? Or, la démocratie repose sur la séparation des pouvoirs et l'état de droit. La police ne doit pas avoir d'objectif politique et l'uniforme ne peut pas être un moyen de pression. Autre élément important, en démocratie, on enfile l'uniforme quand le pays est en guerre et que le représentant du peuple a aussi le rôle de général. Mais dans ces cas aussi, c'est périlleux. Tu sais, l'uniforme sert à ça, à distinguer, à permettre à l'œil, au regard, de reconnaître immédiatement la fonction de celui qui le porte. L'uniforme est une garantie pour ceux qui le trouvent face à eux. L'uniforme du médecin ou de l'infirmière, comme la soutane du prêtre, indique qu'il ou elle est à la disposition de ceux qui ne portent pas cet uniforme. Il permet d'identifier un référent sans besoin de médiation. En revanche, lorsqu'un homme politique porte un uniforme, il donne à voir une certaine partie de lui-même. Voilà pourquoi ce geste est sinistre. L'infirmier enfile des chaussures blanches et une blouse pour mieux exercer son activité, pour préserver ses vêtements, pour des raisons d'hygiène, mais aussi pour être facilement reconnaissable par le patient. Mais pourquoi un politicien devrait-il se rendre reconnaissable? L'équilibre des démocraties est délicat. Pour le préserver, les forces de l'ordre et les forces politiques devraient toujours rester à bonne distance les unes des autres. Au contraire, dans les dictatures, les tyrans portent toujours un uniforme, précisément pour dire que cette distance a été abolie et qu'ils sont désormais responsables de la police et autres milices. Au fond, il s'agit de faire comprendre que l'armée leur répond à eux et à personne d'autre. Fidel Castro a porté l'uniforme pendant des décennies lors de ses apparitions publiques. La logique était la même que dans tous les pays du socialisme réel. L'armée est le peuple. Je suis le chef de l'armée. Donc, je suis le chef du peuple. Par conséquent, attaquer Fidel Castro signifiait avoir les forces de l'ordre contre soi. Dans de très rares cas, Fidel Castro remisait son uniforme militaire. Lorsqu'il a rencontré Jean-Paul II en 1998, par exemple, et ce n'est pas un hasard si, à la suite de cette rencontre, de nombreux prisonniers politiques ont été libérés. Cette absence d'uniforme était une façon de dire au souverain pontife « Je viens en paix ». Le revêtir revient à dire à un civil « Je suis prêt à faire la guerre ». Mais contre qui ? Kadhafi portait l'uniforme militaire pour montrer clairement que son pouvoir était militaire, conquis par les armes. Il voulait dire à ses sujets « Je gouverne d'une main de fer ». Il n'est donc pas étonnant que sous son règne, la Libye soit devenue sa caserne. C'est vrai, même dans les démocraties, on a porté l'uniforme, me diras-tu. Winston Churchill, par exemple. Oui, mais l'Angleterre était officiellement en guerre. Ce qui signifiait que Churchill était à la tête des forces armées uniquement le temps de l'effort. Les larmes et le sang qu'il demandait à son pays pour résister à Hitler. À Yalta, face à Staline, dans son uniforme de généralissime de l'Union soviétique, Roosevelt se distinguait par une tenue civile qui affirmait silencieusement « Dans mon pays, l'uniforme est le privilège du seul Eisenhower ». Rappelle-toi que le port de l'uniforme par un dirigeant n'est jamais une simple théâtralisation du pouvoir. L'uniforme renvoie toujours à l'idée que les armes sont à portée de main et que le pouvoir peut s'en servir. Tôt ou tard, celui qui porte un uniforme sera également représenté avec une arme à la main. L'armée et moi, la police et moi, ensemble, fusionnels, une même identité. Ou peut-être qu'en portant un uniforme qui ne leur appartient pas, ces hommes veulent signaler un état d'alerte, quelque chose que tu ignores, mais qu'ils savent, eux, car ils sont les chefs. Ils savent tout, mais ne te disent rien, car ils pensent pour toi. Ils veillent sur leurs sujets, leurs enfants. Mais toi, crie-le haut et fort, tu n'es pas un enfant. Crie que tu ne veux pas que des gens se sacrifient nuit et jour dans leur uniforme pour assurer ta sécurité, car s'ils le font, cela signifie que toute critique de leurs actions sera considérée comme un problème de sécurité. Prête-y attention. Quand on pense aux pires dictatures du monde, il est toujours question d'hommes en uniforme. Hitler, Staline, Mussolini, Kadhafi, Fidel Castro, Pinochet, Omar el-Béchir, Mobutu. Des hommes autoritaires qui veulent faire croire que leur corps n'est pas un simple corps, mais l'incarnation d'une fonction méta-historique. L'uniforme du chef est la marque de son autorité. Un leader en uniforme n'est plus le résultat du libre choix des électeurs, mais d'un charisme, d'une désignation venue d'en haut. Crie-le,
Ne te laisse pas berner par cette liturgie silencieuse. Tourne les yeux vers ceux qui respectent les règles et les mandats démocratiques. Rappelle-toi qu'un vote n'est pas un like donné en fonction d'une adhésion instinctive, mais après avoir réfléchi, examiné et comparé les données. Si on te dit que frotter deux bâtons l'un contre l'autre déclenche une combustion, exige que l'expérience soit faite sous tes yeux, peu importe si on méprise ta foi dans la science. Et peu importe ce dont les hommes politiques veulent te convaincre, demande-leur de ne plus sortir le lapin de leur chapeau. Ils ne doivent pas charmer ni divertir. Ils ne doivent pas étonner. Ils doivent juste montrer qu'ils sont compétents. Quand le moteur de ta voiture est en panne, tu la confies à un mécanicien, pas à un coiffeur. Le geste muet, l'uniforme, la théâtralité sans parole et la liturgie subliminale ne devraient pas t'enchanter. Mais je le sais, ça ne marche pas sur toi. Rien de tout ça n'a la moindre prise. Crie-le. Tu ne veux pas être transformé en simple soldat dans quelque guerre que ce soit. Qu'est-ce que tu penses de...
Il a fait le tour de la question. Et il a fait vraiment le tour de la question de l'uniforme. Bah, c'est ça, c'est... Il a expliqué, ça me plaît ce qui est bien, parce que ce qu'il écrit, parce que c'est simple. Il utilise des mots simples pour exprimer vraiment des choses très complexes.
Est-ce que dans, par rapport à ce que tu nous expliques là, la police des mœurs n'a pas sa raison d'être?
Non, la police des mœurs n'a pas sa raison d'être.
Okay.
Il n'y a pas de police des mœurs. La police fait en sorte de faire respecter la loi, veiller à la sécurité des gens, mais pas aux mœurs. Les mœurs, chacun de nous a ses mœurs à lui déjà. Et chaque société a ses mœurs à lui. Il n'y a pas de police de mœurs. Mes mœurs ne sont pas les tiens. On a les grandes valeurs, oui, mais chacun a ses mœurs à lui. Ça, de une, de deux. Je me souviens, j'ai fait... De 2011 jusqu'à maintenant, j'ai fait beaucoup de campagnes électorales. Mmh. Je suivais ça. Où j'étais dans des machines de communication, disons. Et dans ces machines-là, je rejoins l'écrivain. C'est que on choisissait comment le candidat ou les candidats, ou candidates, comment ils s'habillaient. Pourquoi le rouge vif? Pourquoi le noir? Pourquoi le bleu? Pourquoi le bleu mécanique? Pourquoi le bleu foncé? Pourquoi un nœud de cravate grand, pourquoi petit? Comment il devra regarder? Qu'est-ce qu'il doit mettre? Comment s'asseoir? La photographie, ce sera bras croisés ou à ouvert. Le regard tend vers où? C'est la même chose. L'habit, même le costard, c'est un uniforme.
Tu continues avec ça après la publicité.
Est-ce que c'est presque beau qu'on forme une odeur? Une odeur?
Jamais connu la misère.
Écoute locale avec Shiz 94.3.
Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche tous les samedis de 8h à 10h sur les ondes de Chiz 94.3 avec Augustin Becci.
Mes chéris, où sommes-nous?
Nous avons mis pied là où le meilleur de la culture locale alternative se trouve. Musique, littérature, danse, art visuel et cinéma. Il s'en passe des choses ici.
Vous venez d'atterrir à Chéri J'arrive sur zone de Chiz 94.3 à Québec. Pour être à jour sur tout ce qui se passe dans la culture émergente, locale et d'ailleurs, c'est Chéri J'arrive qu'il faut écouter. Du mardi au jeudi de 16h à 17h30.
Je voudrais bien rester, mais seulement si on trouve un loyer abordable.
Funk Connection, les mercredis de 19h30 à 21h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Alors, tu nous disais que chacun de nous a ses mœurs.
Oui.
Et que la police des mœurs ne se justifie pas.
Mmh.
Bon. Est-ce que tu peux faire un parallèle entre ça et la paix qui est en déficit? Parce que depuis les Romains, personne n'a vraiment contesté de façon significative le fait que pour avoir la paix, il faut préparer la guerre.
Parce que...
Et maintenant, nous avons les mœurs et la police des mœurs.
Écoute, déjà, pour faire la paix, il faut préparer la guerre. C'est-à-dire qu'il y a un vainqueur qui va imposer la paix. Sinon, ça sera des guerres non-stop.
Ça, c'est une très bonne idée. Donc, si je suis ton regard, excuse-moi, il y aura une paix des cimetières.
Oui, tout à fait. Bah, en tout cas, s'ils ont la paix. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'il y a un du jugement après. S'il y en a de la paix, après. Mais, écoute, dans certains pays que j'ai visités, il y avait ce qu'on appelle les polices des mœurs.
Mmh.
Et j'ai vu comment ils font. Et c'est pas trop le fun, pour être très, très bref. C'est pas... Bah, mes mœurs, comme je disais tout à l'heure, c'est pas les mêmes mœurs. Pourquoi vous essayez d'imposer des mœurs à des personnes? Je crois que ça rentre dans les libertés aussi. On peut pas imposer, à travers la police, des mœurs bien spécifiques, parce que l'agent lui-même, avec l'autorité de son costume, son uniforme, va imposer ses mœurs à lui.
Oui, sa compréhension des mœurs.
Voilà, parce que les mœurs, c'est pas des lois. On peut pas dire...
Parfois, c'est dans les lois.
Parfois, mais qu'est-ce
mais
qu'on
pas
écrit?
Pas tout le temps.
Tout à fait.
C'est ça. Et les mœurs, et puis, il y a toujours une interprétation.
Exactement, je cherche cette interprétation. comme tout à l'heure, le couvre-chef, non, ça ne doit pas dépasser ça, ça ne doit pas... Bah, pour lui, ça a dépassé d'un centimètre, et c'est hors la loi.
C'est ça.
Tu vois qu'est-ce que je veux dire?
Oui.
Il y a toujours une interprétation.
Interprétation.
Et le pouvoir, et un abus de pouvoir de... c'est pas du costume de l'habit officiel de cette police des mœurs là, et c'est vraiment toujours excuse-moi avec ce genre là de ce qu'on appelle les polices de mœurs ou des associations qui sont pour les mœurs, il y a toujours des problèmes qui vont avec.
Écoutons notre ami Manu Chao,
oui,
qui nous chante Clandestino.
Solo voy con mi pena, sola va a pena correr mi destino para burlar la ley. Perdido el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Malonera,
clandestina.
Peruano,
clandestino.
Boliviano,
clandestino.
Marihuana,
ilegal.
Yeah, yeah. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dice el clandestino, yo soy el quebrale. Argentino, uruguayo clandestino, colombiano, marihuana ilegal. Está el casco bayola.
Alors c'est ça. Peruano, nigeriano, clandestino, marijuana, illégal.
C'est une des plus belles chansons que j'aime.
C'est ça, j'allais te demander ton point de vue par rapport à... Alors, est-ce qu'on peut considérer que quelqu'un comme Manu Chao est un homme politique, un objecteur de conscience, un influenceur? Toi, tu le placerais où?
Dans les trois. Pour vrai. Parce que déjà, c'est un influenceur, pas comme d'aujourd'hui. Là. J'ai un influenceur qui fait de l'art et de l'art qui prône une cause.
Oui.
Et essaie de sensibiliser les gens à ça. Et c'est comme ça que normalement le monde devra changer, être sensibilisé par rapport à beaucoup de choses. C'est à travers les vecteurs culturels. La chanson, le dessin, le théâtre, et surtout le théâtre, le théâtre de rue, la musique de rue, tout ce qui est... Tu sais, je suis partisan d'une ville vivante, d'une ville où des rues, par exemple, Manu a fait tellement de représentations dans la rue, dans les métros, dans les stations, que c'est devenu viral sur Internet. Les artistes doivent faire ça de partout dans le monde. Essayer de sortir des quatre, parce que les gens ne vont plus comme auparavant dans les scènes ou pour voir les scènes ou les théâtres ou les concerts, parce que primo ça coûte cher, secondo il y a toujours une place limitée. Avec Internet c'est totalement ouvert, on peut se représenter dans la rue, faire vivre la ville. J'aime bien par exemple Barcelone. C'est une ville vibrante, c'est une ville qui a du cœur, c'est une ville qui a de l'âme. À chaque coin de rue de ce qu'on appelle la Rambla, l'artère principale de Barcelone gothique, dans l'ancienne, le vieux Barcelone, il y a des artistes à chaque coin de rue. Soit qui font du théâtre de rue, soit ils font de la musique du rue, soit ils font genre, c'est comme des statues, tu peux voir, ils font vibrer la ville et avec leur art, ils font passer des messages aux gens qui les regardent et qui passent et aux touristes qui passent. C'est-à-dire que avec Internet, avec les gens qui viennent de partout dans le monde regarder ça et écouter ça, c'est comme a fait Manu. Et c'est un phénomène mondial qui a créé et qui a commencé avec, on n'oublie pas, avec Bob Marley et Alpha Blondy.
Je vais partager avec notre auditoire et toi un vieux conte que tu connais certainement, Les Six Aveugles et l'éléphant.
Oui.
Un jour de grand soleil, six aveugles originaires de l'Hindoustan, instruits et curieux, désiraient pour la première fois rencontrer un éléphant afin de compléter leur savoir. Le premier s'approcha de l'éléphant et alors qu'il glissait contre son flanc, vaste et robuste, il s'exclama « Dieu me bénisse, un éléphant est comme un mur ». Le deuxième, tétant une défense, s'écria « Ho ho, rond, lisse et pointu, selon moi, cet éléphant ressemble à une lance ». Le troisième se dirigea vers l'animal, puis prit la trompe ondulante dans ses mains et dit pour moi, « L'éléphant est comme un serpent ». Le quatrième tendit une main impatiente, palpa le genou et fut convaincu qu'un éléphant ressemblait à un arbre. Le cinquième, s'étant saisi par hasard de l'oreille, dit, « Même pour le plus aveugle des aveugles, cette merveille d'éléphant est semblable à un éventail. » Le sixième chercha à tâtons l'animal et s'emparant de la queue qui balayait l'air, perçut quelque chose de familier. « Je vois, dit-il, l'éléphant est comme une corde. » Alors les six aveugles discutèrent longtemps et passionnément, tombant chacun dans un excès ou un autre, insistant sur ce qu'ils croyaient exact. Ils semblaient ne pas s'entendre. Lorsqu'un sage qui passait par là les entendit argumenter. « Qu'est-ce qui vous agite tant ? » dit-il. « Nous ne pouvons pas nous mettre d'accord pour dire à quoi ressemble l'éléphant. » Et chacun d'eux lui dit ce qu'il pensait à ce sujet. Le sage, avec son petit sourire, leur expliqua. « Vous avez tous dit vrai. Si chacun de vous décrit l'éléphant si différemment, c'est parce que chacun a touché une partie de l'éléphant très différente. L'éléphant a réellement les traits que vous avez tous décrits. « Oh !» s'exclamèrent chacun. Et la discussion s'arrêta net. Et ils furent tous heureux d'avoir dit la réalité, car chacun détenait une part de vérité. Dans le jaïnisme, il est expliqué que la vérité peut être affirmée de sept façons différentes. Vous pouvez ainsi voir combien cette religion est riche. Elle nous enseigne à être tolérants envers les autres concernant leur point de vue. Ceci nous permet de vivre en harmonie avec des gens qui pensent différemment de nous. Les jaïnistes appellent cela Siyadvada, Anekadevada, ou la théorie des affirmations multiples. C'était un conte traditionnel hindou. Est-ce à dire que les religions ou les règles qui sont trop strictes sont en dehors des réalités?
Oui et non. Écoute, pour bâtir une société, il faudra avoir des règles.
Oui.
Mais lorsqu'on a des bons fondements, solides, on essaie d'alléger un petit peu, d'enfreindre un petit peu ces règles-là, et de, plutôt pas enfreindre, mais de faire une mise à jour à ces règles en s'adaptant aux nouvelles réalités de la société. Par exemple, après...
Ici, on parlait du jaïnisme. L'hindouisme, c'est-à-dire le Bouddha, le Bouddha dit que la corde ne doit pas être trop tendu.
Oui.
Ou trop lâche.
Parce que ça casse.
Ça doit être comme une corde pour pouvoir faire la musique. Donc, il prenait le juste milieu qui tenait compte des... Il fallait être ni trop raide.
Ni trop mou.
Ni trop mou.
Oui, on dit ça aussi.
C'est en fait ce que tu es en train de nous expliquer.
C'est
là
ça.
Qu'il faut s'ajuster.
C'est ça, mais ça, c'est difficile de trouver le juste milieu.
Donc, il faut s'ajuster constamment.
Tout à fait. C'est très difficile de trouver juste... Parce qu'on est des êtres humains. Mmh. On n'est pas une machine qu'on peut programmer pour trouver au millimètre près, il est où le juste milieu.
Même les machines doivent être réajustées régulièrement.
Bien sûr. Il y a toujours une marge d'erreur.
C'est ça.
Même dans les industries aérospatiales, il y a toujours une marge d'erreur minime.
C'est ça.
Qui existe. Nous, comme êtres humains, parfois on est sur les nerfs, parfois on est tanné, parfois on n'est pas correct, juste comme ça. On se réveille le matin, moi, tu sais, le sentiment que je ne sais pas qu'est-ce que j'ai aujourd'hui. Il n'y a rien, mais même si... Tu sais, dans la météorologie, hein, ce qu'on appelle la pression atmosphérique. Mmh. Lorsque la pression atmosphérique est forte, on se sent comme si on a du poids qui est exercé sur nous et on est un petit peu mal à l'aise. Même les facteurs climatologiques, ça nous influence.
Pour compléter ce que tu dis, il y a des gens qui parlent de la pleine lune.
Bah oui, j'ai
moi,
vu ça.
Moi, je n'y ai jamais beaucoup cru, mais beaucoup d'amis sont formels.
Oui, moi aussi. Écoute, moi, quand j'étais petit, j'ai assisté à un éclipse totale. Mm-hmm. Par exemple, comme il y aura au 8 avril, je crois.
Exact.
Et j'ai assisté aux pleines lunes. J'ai fait une nuit blanche dans un site archéologique datant du 9e siècle, sous un temple, 9e siècle avant Jésus-Christ, sous un temple romain, avec une pleine lune. Il n'y avait rien. Je regardais, c'était beau.
Pour toi, il n'y avait rien.
C'était beau.
Mais j'ai des amis musiciens, là.
Ouais.
Ou poètes, ou enfin artistes. Mm. Ce n'est plus les mêmes individus en période de pleine lune.
Ok.
Bah, mais moi, je ne ressens rien.
C'est comme pour la transe dans la musique soufie.
Exact, voilà.
On ne sent rien, mais pour eux, ils croient à ça, ils sont en transe.
Exactement.
Je respecte.
Comme dans le vaudou.
Tout à fait. Le vaudouisme, c'est une religion.
Oui, exactement.
Et les personnes croient à ça énormément. Je respecte, parce que j'ai pas fait l'expérience de ça. Je peux pas savoir qu'est-ce qu'ils sentent. Mais lorsqu'ils expriment, c'est, écoute, soit on croit, on croit pas. C'est comme pour les divinités. Soit on croit, soit on croit pas. Soit on croit en tout ce qui est surnaturel, par exemple, la transe. Soit on croit pas. Il n'y a pas objet de cogiter autour et dire non, c'est pas vrai. Non, je crois. Chacun ses croyances. On n'est pas ici pour faire la police des mœurs. Nous, on n'oublie pas ça. Même avec nos amis et nos contacts, on n'est pas pour faire la police des mœurs. Il a envie de sentir ça, de sentir cette relation, ça. Peut-être de s'inspirer pour la musique, ça vient de la pleine lune. Mais pour dire, par exemple, moi, la bout du monde que j'en viens, c'est très ancien par là-bas. C'est très imprégné dans tout ce qui est ethno-archéologie, c'est-à-dire tout ce qui est histoire relayée par voix, par chanson, par cantes de grand-père et grand-mère, on dit toujours « ne dors jamais sous la pleine lune ». C'est démentiel.
Wow.
Oui, on aura toujours des cauchemars. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, j'étais dans colonie vacances, j'ai dormi un petit peu, tu sais, les lits superposés.
Oui.
La lune entrait, c'est une pleine lune, j'ai dormi, j'ai tombé du lit en haut.
Oui.
C'est la première fois que ça m'arrive, ça m'est arrivé jamais après. Je me disais, jusqu'à maintenant, c'est en relation. Je faisais des cauchemars. Et la pleine lune, elle influence les mers et les océans.
Bon, c'est ça. Est-ce que c'est, dans le cas où tu es tombé, est-ce que c'est une coïncidence? Enfin,
Peut-être que je faisais un rêve ou un cauchemar que j'étais un joueur de soccer et j'étais en train de faire un coup de ciseau.
Bon, c'est ça. Par contre, il y a quelque chose de constant
ouais.
dans
beaucoup de cultures, moi je parle des cultures d'Afrique subsaharienne, mmh. on dit que les femmes ont un cycle menstruel qui va avec la lune.
Oui. Ça, de une, de deux. Tu sais, dans le monde, il y a deux civilisations ayant deux calendriers différents. Il y a le calendrier qu'on a occidental, grégorien, oui. janvier, février, mars, avril.
Oui. Et le calendrier lunaire.
Le calendrier lunaire, c'est dans la civilisation islamique,
oui.
musulmane.
Oui.
Il y a ce qu'on appelle le calendrier lunaire.
Ok.
Et scientifiquement, c'est plus précis, en fait. C'est parce que il y a des cycles bien précises par rapport à la Lune. Il n'y a pas le un quart de jour de la, du calendrier grégorien qui chaque fois, le mois de février, soit 4 ans, soit 29 ou 28, je crois, c'est ça. Et tout, je crois, qui est en relation avec les cycles de la Lune. Les cycles des femmes. Les mers, je veux dire les mers océans,
oui.
L'avancée et le recul des mers,
les marées
marées hautes et marées basses,
oui.
je le constate, je suis parti dans des îles, je le constate, c'est énorme.
Mais moi je suis né à Douala, donc au bord de la mer.
Voilà.
Alors,
t'es un enfant de mer là.
Oui, donc j'ai pu constater ça, les marées.
Tout à fait. Ce qui est bizarre, les gens nous écoutent, peut-être ils ne conçoivent pas ça. Moi, par exemple, un exemple, j'ai loué c'est pas un chalet, mais un bungalow, ce qu'on appelle un bungalow des bungalows, là,
okay.
pied dans l'eau. C'est-à-dire que tu ouvres le bungalow,
oui.
à 10h du matin, t'as bloc, tu sais, genre, les pieds dans l'eau. Carrément, c'est pas que tu avances dans l'eau, c'est
non,
tu ouvres, tu sors, les pieds dans l'eau.
Ouais.
À 20h le soir, la mer, on la trouve à 50 mètres, elle a reculé.
Voilà.
Mais c'est ça. C'est un phénomène qui est influencé par la lune. C'est très bizarre. Les poissons aussi sont influencés. Il y en a des poissons qu'on pêche, qu'on appelle les maquereaux.
Oui.
Ils sont pêchés à la lumière de la lune.
Ok.
Ils commencent à s'illuminer en mer. Mm-hmm. Et là, les pêcheurs mettent leur filet et commencent à ramasser tout ça.
Écoutons notre ami Manu Chao. Mm-hmm. On parlait de police des mœurs. J'aime bien cette chanson, Meyaman Kaye.
Mmh.
Il parle des travailleuses du sexe.
La revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de mal alegría. Calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo. Yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte. Un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno, pa' toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa, siempre a deshora. Me llaman puta, también princesa. Me llaman calle, es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida. Calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, calle.
Nous avons parlé de la police des mœurs, des positions des uns et des autres. Et il fallait qu'on termine par des gens qui sont généralement jugés ou marginalisés. C'est pourquoi le point de vue en musique de notre ami Manu Chao à propos de, des travailleuses de, du sexe est très important.
Oui, en fait, dis-moi.
Oui. Vas-y. À côté de ça... Et avec les remarques que tu veux faire, ce serait intéressant de saluer nos...
Ah oui
nos
chers auditeurs
oui.
et auditrices, forcément. Je salue... Il m'a envoyé...
Mais oui, c'est tu peux dire son nom ou son prénom.
Oui, c'est Mohamed Medeb. C'est un des Tunisiens qui sont à Québec, là.
OK.
Il conduit son char.
Oui.
Bonne route, mon cher.
Formidable.
C'est ça. Et il nous écoute. Et à la base, en Tunisie, il travaillait dans le domaine de la pêche aux poissons.
OK.
Et il était sensibilisé par rapport à ça, par rapport à la grande lune. Là.
La remarque que nous avons faite.
Tout à fait. On te salue, mon cher. Et bonne continuation et bonne route, là. C'est ça. Mais par rapport aux travailleuses du sexe, là.
Oui, oui.
Ces femmes-là, je les respecte énormément. Ils ont un combat depuis la haute antiquité. Ils sont là. Ils ont traversé leur job, elle a traversé tous les siècles, toutes les guerres, toutes les humanités, toutes les... Elles étaient là. Elles ont une mémoire, pas comme d'individus, mais comme une culture grande comme le monde. Elles sont là, de partout.
Donc c'est une mémoire de l'humanité.
Tout à fait. J'ai même été, je te ferai une surprise, dans des manifestations de travailleurs de sexe. Je les soutiens, j'étais une des personnes qui soutenait, et je soutiens encore pour leurs droits. Parce qu'elles militent à travers le monde, bien sûr, chaque pays ou chaque région du monde avec ses challenges, mais jusqu'à maintenant, elles ont des challenges, elles sont militantes pour leurs droits, pour être reconnues comme travail et avoir la protection légale. Partout dans le monde. Et voilà.
C'est ce qui conclut notre émission du jour. Bon samedi et à samedi prochain.
Samedi prochain.
J'espère encore que quelque part l'attente s'arrête. Que quelque part l'attente s'arrête. La fenêtre je sais, j'ai besoin de rien. Attends ici, je sais, je suis là.